Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Notre auteur continue sa marche vers Saint-Jacques. Nous sommes en Haute-Galice, le but est proche, les retrouvailles et les rencontres se succèdent. Nuit romaine. Azeb est né en Éthiopie, dans une région de hauts plateaux où la chaleur du soleil est tempérée par l'altitude. Son pays a donné au monde quelques-uns des meilleurs coureurs de fond et toute la population est habituée à marcher. Quoiqu'elle vive en France depuis près de 30 ans, Azeb n'y fait pas exception. Elle est tout à fait capable de suivre le chemin tout entier. Cependant, moins fascinée que moi par le sujet, elle ne voyait pas de raison pour s'infliger pareille épreuve. Sa seule motivation était que nous puissions nous retrouver et marcher ensemble quelques jours. Voilà pourquoi nous nous sommes donné rendez-vous en Galice pour parcourir les 100 derniers kilomètres. Par commodité, nous avons choisi comme point de rencontre la ville de Lugo, relativement facile d'accès par le train. Nous ne nous doutions pas de ce qui nous y attendait. Lugo, situé sur une colline, est entouré de remparts romains qui atteignent 10 à 12 mètres de hauteur par endroit. Peu de cités au monde peuvent s'enorgueillir de telles fortifications, d'autant qu'à Lugo, elles sont complètes et pratiquement intactes, justifiant le classement du site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les habitants du lieu, pétris de références antiques, ont eu l'idée de célébrer chaque année une fête romaine qui se tient au mois de juin. Pendant ce week-end latin, chaque habitant est invité à s'habiller en romain. Les costumes sont préparés avec soin tout le reste de l'année. Des participants venus des villes voisines et désormais de toute l'Espagne se joignent chaque année de plus en plus nombreux à la fête en apportant eux aussi leurs déguisements. Le résultat est une ville entièrement peuplée pendant 2 jours de milliers d'hommes et de femmes tout droit sortis d'Astérix. L'âme humaine étant ce qu'elle est, quand on donne à quelqu'un le choix pour se travestir en romain, il est rare qu'il s'habille en esclave. Il s'imagine plus volontiers empereur. C'est donc une ville remplie de César et de Néron que j'abordais pour y retrouver ma femme. Car le hasard avait voulu que la fête romaine ait lieu précisément le jour que nous avions fixé pour nous rencontrer. Nous l'ignorions complètement. En franchissant les remparts par la porte Saint-Pierre, comme le roi Alphonse II l'avait fait lui-même en 829, je trouvais le lieu très pittoresque. Cependant, après avoir croisé ma 5e Cléopâtre, je commençais quand même à me poser des questions. J'arrêtais un centurion et lui demandais des explications. Il me renseigna d'un air martial, tout à fait gagné par son personnage, et me salua le bras tendu. Ma femme, quant à elle, préparée par ses lectures à se plonger dans le Moyen-Âge, eut l'impression, en descendant du train à Lugo, de ne pas s'être arrêtée à la bonne station dans la machine à remonter le temps. Quand elle m'aperçut sur la place du marché, elle n'y vit pas plus clair pour autant. Car un pèlerin n'est d'aucune époque. Cet être hirsute, aux vêtements maculés, le visage émacié et les chaussures crottées, peut appartenir aussi bien à l'Antiquité romaine qu'au Moyen-Âge et même au présent. Il est à la fois familier et méconnaissable. Après une embrassade timide au cours de laquelle j'ai pris conscience de ma crasse, nous nous sommes assis en plein air sous un marronnier et nous avons bu un coca au milieu de joyeuses tablées de patriciennes légèrement vêtues et de joyeux sénateurs. Rome, c'est entendu, est admirée pour l'équilibre de ses monuments et l'éloquence de ses rhéteurs. Mais ces réminiscences scolaires sont occultées par une autre réputation qui parle à l'inconscient de tout le monde. C'est la cité des orgies et de la luxure. On sent bien dès les premières heures de la fête romaine que les toges et les voiles ne vont pas tenir toute la soirée. La plupart des empereurs ont un verre à la main dès avant la tombée du jour. Et le succès de ces journées romaines tient surtout à la chaleur de leur nuit. Malgré le bonheur de nous retrouver, et le désir que nous ressentions nous aussi, décuplé par ma longue absence, nous ne parvenions pas à être aussi détendus que les Caligula qui nous entouraient. c'est que pendant ces premiers moments de retrouvailles avec quelqu'un qui est accoutumé à votre être d'avant, vous mesurez avec le plus d'acuité les changements que le pèlerinage a opérés en vous. Ces décalages sont perceptibles dans tous les domaines. C'est bien sûr sur le plan psychologique qu'ils sont le plus évidents, mais aussi le plus attendus. Le pèlerin n'a pas la même notion du temps que le nouvel arrivant. Celui-ci lui paraît agité, impatient, tandis qu'il donne de lui-même une image de mollesse et de relâchement. Tout cela est assez superficiel, malgré tout. Le pèlerin sent que le jour où il reprendra sa vie d'avant, ses effets du chemin disparaîtront. Il y a, en revanche, un domaine dans lequel la transformation est plus profonde et plus durable. C'est pourtant un sujet d'apparence mineure. Il s'agit du sac à dos. Pour le nouvel arrivant sur le chemin, et d'autant plus qu'il n'entend pas en parcourir une très longue portion, le sac à dos est simplement un sac à dos. Pour le pèlerin déjà attendri par une longue marche, le sac à dos c'est le compagnon, la maison, le monde qu'il transporte. En un mot, c'est sa vie. À chaque pas, les bretelles l'ont enfoncé dans sa chair, ce fardeau fait partie de lui. S'il le pose, c'est sans jamais le perdre des yeux. La désinvolture avec laquelle le nouveau marcheur fourre dans son sac des objets variés et souvent superflus, sans penser ni à leur volume ni à leur poids, provoque chez le pèlerin aguerri un effroi proche de l'épouvante. C'est que, au fil des étapes, le marcheur a appris à peser, au propre comme au figuré, chacun des éléments qui composent son barda. Avant le départ, j'étais tombée un peu par hasard sur des sites internet consacrés à la marche ultra-légère, ou mule. Je devais rapidement découvrir qu'il ne s'agissait pas seulement pour les responsables de ces sites de prodiguer des conseils techniques. Leur approche était plus globale, plus ambitieuse, et se présentait presque comme une philosophie. L'axiome central de la pensée mule tient en une phrase: le poids, c'est de la peur. Pour les adeptes de cette démarche, l'essentiel consiste à méditer sur la notion de charge et au-delà, sur le besoin, sur l'objet, sur l'angoisse qui s'attache à la possession. Le poids, c'est de la peur. En partant de là, chacun est amené à réfléchir. Un pullover, c'est nécessaire. J'en emporte deux. Pourquoi ? De quoi ai-je donc si peur? Le froid est-il vraiment menaçant? Ou est-ce mon inconscient qui, sur ce sujet, pèse de tout le poids de mes névroses? Les sectateurs du mouvement mule vont loin dans leur volonté de se déprendre de toute crainte irrationnelle. Leur site fourmille d'inventions ingénieuses permettant à un seul objet de répondre à plusieurs besoins réels. On trouvera ainsi des capes de pluie transformables en tentes, des sacs de couchage convertibles en veste duvet, un tapis de sol utilisé comme paroi de sac à dos. L'ingéniosité des bricoleurs leur fait découvrir des solutions originales pour convertir une canette de bière en réchaud ou fabriquer un sac à dos avec un filet pour stocker les balles de tennis. On trouve sur le site des chargements types élaborés en fonction de la durée de la randonnée et du climat. On apprend ainsi comment circuler 5 mois avec 6,5 kg sur le dos, bivouaquer en moyenne montagne sans emporter plus de 4 à 5 kg, ou traverser l'Islande pendant 17 jours en autonomie complète sans porter plus de 15 kg. J'avais regardé ces sites avec curiosité et un peu de condescendance, je l'avoue, pour ce qui m'apparaissait comme une lubie minimaliste, un peu folklorique. J'y avais quand même pêché quelques idées et je m'étais cru malin en ricanant sur mes peurs à mesure que je bourrais mon sac de t-shirts et de chaussettes.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.